pied sur terre, Sonia Kronlund.
Personne n'ose provoquer l'avenir. Faudrait être fou pour provoquer l'avenir.
Jacques Heusel, assureur à Arras, dans le nord de la France, disparaît le 17 novembre 2008. Son corps est retrouvé le 29 janvier 2009 dans la Sambre, en Belgique, à une trentaine de kilomètres du pont où il a abandonné sa voiture 2 mois auparavant. Dans son sac à dos, une haltère de 5 kilos a lesté le corps. Les enquêteurs y trouvent aussi un téléphone portable, un portefeuille, un agenda dans lequel la semaine du 17 novembre 2008 a justement été arrachée. 8 ans plus tard, réfutant la thèse du suicide immédiatement proposée par la police, sa femme Nicole et l'un de ses fils essaient toujours de percer le mystère Jacques Heusel, qui ne cesse d'en révéler d'autres, comme une cascade de découvertes toutes plus folles les unes que les autres. Au départ, il y a un bon père de famille, membre du Rotary Club, notable de province bien connu, ami des politiciens de droite. Au fil des années et des trouvailles, il se transforme en homme criblé de dettes, adepte de pratiques sexuelles pas très catholiques, fréquentant sans doute des maisons closes en Belgique, après avoir claqué les économies de sa femme, de sa belle famille, tout l'or des enfants, vendu les assurances vie et j'en passe. Taiseux, d'une discrétion compulsive dont sa femme comprend peu à peu les raisons, l'homme compartimente et tient sa vie sous clé, remplit ses agendas de secrets qu'il a emportés avec lui ou pas. C'est ce que nous essayons de voir jusqu'à 14h dans Les Pieds sur Terre sur France Culture. Un reportage de Leïla Djikli, l'affaire Heusel, deuxième volet.
En réalité, on ne sait jamais ce qui se passe, on sait simplement ce qu'on veut qu'il se passe. C'est comme ça que les choses arrivent.
Le mardi matin, le 27 janvier, j'ai un coup de téléphone pour me dire qu'on a retrouvé le corps de mon mari en Belgique, dans la Sambre. Donc, peu de temps après, j'ai eu la police belge qui m'a téléphoné pour me dire qu'ils avaient retrouvé le corps de mon mari le dimanche soir et qu'ils avaient fait une autopsie et qu'il ne fallait pas que je me déplace parce que je ne pourrais pas le reconnaître étant donné qu'il était en très mauvais état. Voilà ce qu'ils m'ont dit. Parce que je pensais aller en Belgique, c'était sur Charleroi. Et là, je n'ai pas bougé. Et je l'ai regretté par la suite parce que il n'y a pas si longtemps que ça, je me demandais si c'était vraiment le corps de mon mari parce que l'ADN n'avait pas été fait non plus. La Sambre a été sondée 5 km, mais on l'a retrouvée 30 km plus loin. On m'a expliqué qu'il y avait 8 écluses à passer. Les 8 écluses avec une plaie au front, simplement, je trouve ça un peu bizarre. Surtout qu'à cette époque-là, l'hiver était rigoureux et les péniches ne sont pas passées pendant un mois. Elles avaient interdit de passage parce que c'était gelé. Je ne comprends pas qu'on retrouve le corps de mon mari 30 km plus loin. Voilà. Mon mari a été retrouvé avec un sac à dos, avec un haltère de 5 kilos. Pourquoi un haltère? Pourquoi? Et nous avons tout de suite pensé que ce que j'avais dit au départ, il s'est fait avoir, c'est qu'on l'avait lesté intentionnellement, c'est tout. Pour pas qu'il remonte tout de suite à la surface. La police, ils n'ont pas fait d'enquête. Il n'y a pas eu d'enquête, ils ont retrouvé un corps, donc quelqu'un qui s'est noyé, c'est tout. Un corps repêché, pour eux, c'est un suicide ou bien je ne sais pas. Je doute de tout parce que j'ai appris 2 mois après qu'il n'y avait pas eu d'autopsie ou qu'il n'y avait eu qu'un examen externe du corps. Quand je demandais à mon avocat de faire une autopsie, « Oh, mais non, il faudrait que ce soit un meurtre !» Pour moi, il a été tué entre le 17 et le 21. 17 et 21 novembre 2008, voilà. Il a été tué à cette époque-là parce que la monte était arrêtée au 21 novembre et vers 1h du matin approximativement, donc la nuit. Donc le corps a pu être mis la nuit dans l'eau. Voilà. Il a peut-être été séquestré, je ne sais pas. Il y a 4 jours de décalage. Une monte ne met pas 4 jours pour s'arrêter. On m'a dit qu'il s'était suicidé, sans doute. Voilà ce qu'on m'a dit. Mais au mois d'avril, j'ai changé d'avocat parce que je voyais que ça n'avançait pas. Et je suis restée, donc pendant 15 jours, je suis allée au tribunal en disant, en tant que partie civile, je dois avoir accès au dossier. Donc à cette époque-là, je trouvais des choses tout à fait anormales. Et on m'a toujours interdit l'accès au dossier. En tant que partie civile, on me répondait, l'affaire est spéciale, il faut que le juge soit là, c'est pas possible, il a trop de travail. À chaque fois que j'étais renvoyée, je revenais en pleurs. C'était inimaginable ce qu'ils m'ont fait voir. Et à cette époque-là, donc on arrive au mois de juin, et on commence à déchiffrer l'agenda de mon mari, qu'il avait sur le corps, parce que forcément, j'ai récupéré tout dans un sac à poubelle. Donc, on avait tout mis à sécher dans le garage et tout. Et là, Arnaud, mon fils, m'a dit, bon, je vais commencer à regarder. Puis, il me dit, bah, regarde, comment ça se fait? On voit Jeumont, on voit Lille, on voit Paris. Il dit, c'est pas normal. Je dis, non, c'est pas normal, parce qu'il ne doit pas y aller. Alors, donc, au bureau, je vais au bureau de mon mari. Puis je lui dis, vous n'avez pas, par hasard, il n'y aurait pas des agendas de mon mari quelque part. Et là, un des inspecteurs de la compagnie dit, madame, tout est bien rangé à l'étage, dans l'armoire, allez-y, vous allez tout trouver. Donc, j'ai pris tous les agendas de mon mari, je les ai ramenés à Arnaud.
Il y avait combien d'agendas?
Un par année. Donc, depuis quelle année? 81, donc jusqu'en 2008. Je lui ai tout ramené. Et il arrivait à déchiffrer l'écriture de son père, ce qui n'est pas facile, parce qu'il a une écriture très spéciale, très patte de mouche, je ne sais pas comment on peut dire. Donc, il voyait Paris, Lille, Jeumont. Et là, Jeumont, ça me faisait bondir, parce que Jeumont, c'était sa famille qui habitait à Jeumont, mais enfin, pour aller au cimetière, puisque ses parents étaient décédés tout au début de notre mariage... Pour faire la tombe au mois de novembre, c'était déjà des complications pour prendre rendez-vous avec lui pour pouvoir y aller. Et je voyais Jeumont n'importe quand dans l'année. Je dis, c'est pas normal.
C'est pas normal parce que vous deviez prendre rendez-vous avec votre mari pour aller sur la tombe de vos beaux-parents.
Oui, parce que mon mari était très occupé. Je disais, c'est un minimum d'aller nettoyer une tombe une fois par an. C'est un minimum. Donc, à partir du mois d'octobre, je commençais à l'embêter pour qu'il prenne date. Et donc, vous voyez, il n'y allait pas de gaieté de cœur. Voilà. Donc, on allait à Jeumont une fois par an. Mais on voyait dans les agendas que c'était hors la Toussaint. C'était pas du tout pendant la Toussaint. Donc, là-dessus, Arnaud dit, bon, ben, il commence à lire les agendas différemment. Et il dit, ben, c'est bizarre, il y a beaucoup de prénoms. Alors, il fait une page, et puis il voit beaucoup de prénoms. Maman, regarde tous ces prénoms, qu'est-ce que c'est? Il découvre des expressions, comment dire...
C'est quoi les prénoms?
Alors, bon, il y en a une cinquantaine, je pourrais pas vous les dire, mais il y a même des pays. Il y a différents pays aussi. Il y a des âges, demi. Il y a des numéros de téléphone, demi. Tout ça, j'ai tout marqué.
Bah, je fais un peu travail détective, c'est ça, c'est à peu près ça. Dans les 3 semaines qui suivent la disparition, j'apprends, une autre personnalité de mon père, quelqu'un que je connaissais pas. Ouais, j'ai découvert beaucoup de choses en peu de temps. Alors, je me suis mis à enquêter, c'est déjà à partir de la découverte du corps de mon père, où peu de temps après, on a été, disons, aux pompes funèbres, prendre dans un sac en poubelle toutes les affaires de mon père. On a trouvé son portefeuille, son petit porte-monnaie, il n'y avait plus que 1 euro à peine, quelques centimes, donc il n'y avait pas d'argent dessus. Il y avait son petit carnet sur lui, noter des rendez-vous, des trajets. Donc on l'a ouvert, on l'a fait sécher. Et à partir de là, j'ai commencé donc à regarder, à essayer d'éplucher son petit carnet. Et j'ai commencé en premier lieu, c'est à la première page, j'ai vu en dessous du numéro de son bureau à l'agence, un autre numéro entre parenthèses.
Oui, il y avait une ligne qui avait été dans les papiers, les factures. On s'est rendu compte qu'il avait fait poser cette ligne inconnue en 2005, quand sa secrétaire n'était pas là. La secrétaire n'était pas du tout au courant de ce téléphone qui sonnait le lundi simplement. Et ce sont les inspecteurs qui ont pris la suite, qui se sont rendus compte que ce téléphone sonnait, et ils arrivaient toujours trop tard. Donc, et après, la compagnie a supprimé cette ligne, malheureusement. Voilà. Alors, donc, je ne sais pas, c'était une ligne, une fois ils m'ont dit, ça vient de Belgique. C'est tout. Mais ils disent, on ne sait pas qui. Et on a une respiration, et puis c'est tout. Voilà. Mais ils ont supprimé la ligne eux-mêmes.
Et du coup, ben, on pouvait plus rien faire. Mais bon, le policier, il avait le numéro, il pouvait donc demander à l'opérateur téléphonique d'avoir les appels émis reçus. Donc, il devait faire, mais nous n'avons jamais eu le retour. Après avoir découvert la ligne inconnue, j'ai épluché les pages de son petit carnet. Donc, c'est à partir de février 96 que je vois des annotations à connotation sexuelle, des prénoms féminins, des âges. Donc, je vois le mot alter.
Des prénoms de filles et de jeunes. Et puis, c'est même écrit téléphone, mère. Il y a tout. Même de temps en temps, il va faire des courses, lui qui n'en fait jamais. Et c'est là où je suis outrée qu'il n'y ait rien qui se fasse. Parce que je vois grenadine. Je vois bière, je vois des choses comme ça pour sans doute leurs après-midi. Et rien n'a été repris. Il marquait des nationalités différentes de femmes ou de filles. Il y avait des âges aussi, des jeunes.
Des annotations ?
Il y avait des annotations sexuelles, oui. On s'est dit, bon, bah, c'est pas tout à fait normal, ça doit être sadomaso. Parce que c'est là où on a découvert que le mot alter était toutes les semaines dans ses agendas. Donc, c'est ce que j'ai repris d'ailleurs quand j'ai pu enfin voir au bout d'un an un juge. Je lui ai dit, vous savez, l'alter que nous avons retrouvé dans le sac à dos de mon mari, c'était une signature. Je lui ai dit, c'est pas normal, dans ces agendas que nous venons de découvrir, vous voyez alter partout. Alors, il y avait aussi chaîne. Oh, il y a des noms que je vous dirai pas. Des noms à éviter, des noms de... Bah, je sais pas, moi... Bon, il y avait des choses qui mettaient cheval. Bon, ça n'a rien. Bon, que voulez-vous, il y avait des choses... Ça, c'est plutôt Arnaud qui vous donnera les précisions. Parce que moi, je les ai écrits... j'ai écrit tous ces noms-là avant de redonner les agendas à la police parce que j'avais peur de ne plus retrouver mes agendas. Donc, j'ai passé le temps. Arnaud me relisait... Et je faisais semaine, mois par mois, et on a fait ça pendant quelques années avant de rendre les agendas à la police.
On voit brasser les chaînes et on voit que c'est plutôt, on va dire, sadomasochiste, les relations. Parce que ben, brasser les chaînes, alter, ça faisait beaucoup toutes les semaines. Les prénoms féminins, oui, beaucoup. Sur l'ensemble des carnets, de 96 à 2008, il y en a moins une cinquantaine. Et plus des nationalités comme allemande, belge, italienne, espagnole, et des âges. Donc il y avait un classement sur les âges, donc il y avait des mineurs, beaucoup entre 11 et 14 ans notamment, et après même plus âgés où ils mettaient 35 ans. Alors, donc il y avait beaucoup, par exemple, on voyait aussi dans les petits carnets le nombre de filles-garçons qui écrivaient. Il y écrivait 10. Ensuite, envoyer, écrivez fête, alter, chaîne. On a les annotations, on a bit, gland. Bon, c'est des termes crus. Il y a sus. Tu entends avec une flèche le prénom. Après, il met Olympiade, moi beaucoup, et médaille d'or du sexe. Vraiment, c'était vraiment organisé.
France Culture, les pieds sur terre.
Et je voyais aussi qui notait, je voyais qu'il n'était pas seul. J'ai trouvé les initiales d'une certaine personne.
Oui.
JPH. Voilà, JPH, et cette personne-là, donc c'est l'initiale JPH qu'on voit partout. Mon père lui souhaitait même son anniversaire, je sais quelle date, l'année. Il se déplaçait même dans la ville où il habitait. C'est quelque chose qu'on a pu constater, donc, notamment par les relevés SANEF. Mais voilà, après, on ne sait pas vraiment quelle était la relation.
Ce que je veux dire, c'est qu'il y a un peu un cocktail d'étonnant, c'est-à-dire avec le chantage, les roses ou les mœurs, comme on veut dire, la politique, voilà. J'ai compris que mon mari avait une vie double, qu'il faisait partie d'un réseau. Un réseau de proxénétisme, je suppose, un réseau de, je sais pas, à Lille. Mais c'est le fait d'avoir trouvé tout ce que nous avons trouvé dans ces agendas qui nous font croire que mon mari, d'après ce que l'on voit, c'est, vous savez, quand on voit ce qu'il écrit, c'est pas lui. Donc, c'est un autre homme. Donc pour moi, mon mari avait deux personnalités. Il avait sa personnalité ici avec nous, chef de famille, il s'occupe de ses enfants, il faut aller de... Voilà, une vie de famille. Et puis à l'extérieur, comme disait le policier, le premier policier, eh bien vous savez madame, de 2h à 8h, on peut faire beaucoup de choses. On est à 1h de la Belgique, on est en quelques heures, vous savez, il y a beaucoup de choses qui peuvent se faire. Parce qu'il me disait, s'il ne découche pas, il est là tous les soirs. Sauf quand il va à ses réunions de Rotary une fois par semaine.
Moi, en découvrant tout cela, d'abord, je soupçonne qu'il y a un réseau, on va dire, pédophile derrière. Ça, c'est la première chose qui me paraît assez évidente. Les annotations qu'il écrivait assez crues, quand on jouait mot bit, gland, ces choses-là, écrites à de très nombreuses reprises. C'était pas du tout mon père, ce que je pouvais imaginer de mon père, de qui il était. Mon père était plutôt assez, on va dire, pour la morale justement, coincé. C'était pas du tout un coureur de jupons, pas du tout. Donc c'est pour ça que tous les termes à connotation sexuelle, tout ce que je peux voir, c'était pas du tout lui. Quand j'ai découvert tout ça, les termes, j'étais sous le choc, on va dire. J'ai découvert l'étude de tous ces carnets que mon père avait, disons, une double personnalité. Il y avait une personnalité chez moi à la maison. C'était un notable de province, il était strict, sérieux, voilà, bonne relation, il était membre du Rotary, il donnait pour les associations. Il aidait les gens, il avait des clients, des très bons clients depuis très longtemps à l'agence d'assurance. Mais en dehors, il devait avoir une autre personnalité quand il quittait la maison et son bureau. Et cette personnalité-là, que j'ai encore du mal à comprendre, qu'on voit par rapport à ses carnets pour moi. On tombe un peu dénu, je ne sais pas encore aujourd'hui qui il était vraiment. Moi, à l'époque, j'avais 24 ans. 24 ans... c'est quand même jeune, bon, on a du mal à réaliser. C'est... Pour moi, ma vie, elle a basculé le 17 novembre 2008. Mais bon, pour faire son deuil et tourner la page, moi, j'aimerais bien savoir qu'est-ce qui s'est passé, qui il était. Pour moi, c'était un citoyen au-dessus de tout soupçon. Vraiment, oui, personne... on lui donnait le bon Dieu sans confession, on va dire. On ne pouvait pas imaginer le centième, c'est pas possible.
Mon mari a peut-être vécu aussi un enfer pour certaines choses, voilà. Parce qu'il ne voulait pas que je sache une certaine vie qu'il avait peut-être avant de notre mariage. Et que quelqu'un le faisait chanter pour, et c'est comme ça qu'il était paniqué quand il y avait un courrier qui arrivait par accident ici à la maison, parce qu'il n'avait pas pu l'ouvrir, et puis il me disait, mais il n'y en a pas d'autres. Et je voyais en colère, mais j'ai à quoi ça sert d'être en colère? J'ai le courrier qu'il arrive ici ou ailleurs, c'est pas grave. Mais il s'en faisait. Voilà. Il avait, il paniquait complètement avec son courrier. Voilà. Donc, pour avoir peur comme ça, c'est qu'il avait peur que des choses soient dites, m'envoie des lettres, voilà. Si jamais il ne payait pas en temps voulu. Moi, pour moi, c'est ça. Il avait un chantage. Ce que l'on a découvert, vous voyez, pour moi, mon mari n'était pas seul. C'est ça le problème dans notre affaire. C'est que mon mari n'était pas seul, il avait un groupe avec lui. Il avait certainement des relations, des amis, je ne sais pas, mais il n'était pas seul. Le problème, c'est qu'il y a comme une omerta, on ne parle pas. Personne ne parle, et c'est là où ça ne va pas. C'est, il est mort. Nous ne vivons plus depuis sa mort, on ne vit, c'est un véritable calvaire. Et je crois que c'est le minimum c'est de, que nous puissions faire, c'est de faire tout pour savoir la vérité. C'est la seule chose qui nous motive, c'est que nous voulons savoir exactement ce qui s'est passé, car nous avons des idées que nous ne pouvons pas encore dire, puisqu'on ne veut pas non plus être attaqué. Mais je sais que je ne fais pas plaisir à beaucoup de personnes, parce que je médiatise, parce que je veux savoir la vérité, que ça dérange beaucoup de personnes, mais ça m'est égal, de toute façon. Et ce serait quand même bien de savoir si leur père s'est fait avoir, s'il y a eu un chantage, s'il y a eu un... De toute façon, on a eu un blocage. Eh bien, il faut admettre que ce blocage judiciaire, ce sabotage judiciaire, c'est fait parce qu'il y a des personnes importantes qui sont impliquées. Ça ne peut être que ça. Donc, ces personnes-là, j'en ai assez de... elles vivent tout à fait normalement. Donc, chacun son tour, si on peut dire. Que la justice, au moins, se fasse.
Je comprends votre désespoir, etc. Mais je me dis, est-ce que lui n'aurait pas été aussi acteur et n'aurait pas fait des victimes, votre mari, s'il a trempé
mais,
dans
oui,
tout ça
a... Mais moi, c'est ce que j'ai pensé, c'est que j'étais outrée que la justice ne fasse rien, que la police fasse, mais enfin, elle n'a fait que ce que la justice lui demande de faire, c'est tout. Parce qu'il a peut-être et certainement fait des dégâts avec les histoires de mœurs, avec les jeunes. Et je trouve inadmissible, c'est que ça fait 7 ans, près de 8 ans, que ça continue, que les mêmes personnes qui étaient avec mon mari, ben, continuent. Donc, c'est pour cette raison qu'on va aussi jusqu'au bout, parce qu'il y a mon mari, il y a des enfants, il y a de tout. Et on ne sait pas à quel point mon mari, s'il était simplement dirigé quelque chose, ou on ne sait pas, on ne sait pas. Donc, on voudrait savoir. Je n'arrive pas à le condamner complètement. J'ai vu beaucoup de choses où je vous dirais que quand je vais au cimetière, je mettrais plutôt un cactus que certaines fleurs. Je vous dirais franchement que je le maudis et que je dis mais c'est inadmissible ce qui nous arrive, je ne comprends pas. Alors non, je le condamnerai le jour où on me dira preuve noire sur blanc exactement, je veux tout savoir. Mais là, c'est nous qui découvrons. C'est le pire, c'est que c'est nous qui sommes obligés d'enquêter. C'est ça le problème, c'est qu'on endure une enquête alors que normalement, on devrait avoir un résumé en disant « il y a eu ça, ça, ça ». Et c'est tout. Tandis que là, c'est nous qui sommes obligés de rechercher les détails, les choses qui ne vont pas. On fait un travail d'enquêteur. Eh bien, c'est pas normal. Alors, on a la perte de... Moi, j'ai la perte de mon mari, de leur père. Et la justice ainsi que la police s'amusent à ce jeu-là avec nous. Comment voulez-vous qu'on ne réagisse pas ? On ne peut que se battre et on est en colère contre eux. Donc, y arriver, il faut qu'on y arrive. On sait que dans une petite ville, tout se sait. Et quand on ne veut pas parler, qu'il y a une certaine omerta et qu'on ne dit rien, bon, c'est qu'on en sait beaucoup plus qu'on ne veut le dire. Alors, c'est vrai que ça peut être un polar, mais malheureusement, c'est un roman qui termine mal, puisqu'il y a un mort et il y a quand même aussi une famille dans le désespoir.
Encore, c'était Les Pieds sur Terre et l'affaire Euzel. Deuxième volet, un reportage de Leïla Djikli réalisé par Anne Kobilac. Sandrine Chapon, c'est l'attachée de production des Pieds sur Terre. N'hésitez pas à nous rejoindre sur Facebook et Twitter. Nous avons une page Facebook et un compte Twitter. Et on vous y attend nombreux pour des réactions, des partages, des likes. Enfin bref, tout ce que vous voulez. Vous pouvez également vous abonner à notre podcast, c'est quasiment obligatoire. Vous pourrez ainsi nous écouter où vous voulez, quand vous voulez et surtout autant de fois que vous le souhaitez.
Take my eyes that I could be so blind. I could not see it was there waiting. Lost and found. The second time around was for me. Now I see, would not waste a moment. Oh no, midnight marauders, midnight marauders, midnight marauders, midnight. Track them roots grow strong. Who's gonna be the one to go? Start to bite me.
cigarettes and some paper. When the girl at the counter caught my eye and asked me to meet her later, she said, down by the door at the back of the store, a place where you can rest.